Ah, ça fait plaisir d'entendre David, hein ? Parce que je me retrouve 20 ou 30 ans avant. J'étais dans l'armée du salut, hein. Et la devise de l'armée du salut, c'est quoi ? Soupe, savon, merci pour le savon, et salut. Et la soupe, eh ben, il faut savoir que toutes les semaines, je distribue du pain frais, du boulanger, et je fais la tourne de tout le SDF, voilà, avec qui je distribue du pain, donc tout le monde me connaît. Ah, salut Gérard ! Là, le boulanger ! Non, je ne suis pas le boulanger, hein, mais je fais la transmission. Donc, comme ça, et puis j'ai l'occasion aussi de témoigner, de prier pour eux, et c'est vraiment un travail extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Alors, on va en revenir à ce que j'ai à vous dire ce matin, et on va demander au Seigneur de nous bénir. Hein. Seigneur, nous nous présentons à toi pour que tu nous parles, Seigneur, pour que tu nous touches. Et je veux demander à ton esprit de manifester ta grâce et de nous toucher chacun d'entre nous et que nous puissions repartir ce matin avec un feu nouveau, avec une vision nouvelle du témoignage et que cela s'inscrive en nous et que ça produise un changement véritable, Seigneur, que seul ton esprit peut manifester en nous. Amen. Alors, ça a bien commencé ce matin. On a chanté un cantique formidable. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Eh bien, j'ai un avantage sur vous. Je vous vois, mes amis. Parce que voir Dieu, c'est vous voir vous, chacun d'entre vous. Jésus a dit, je vous donne ma gloire. Je veux voir la gloire de Dieu. Je vous regarde malgré les masques. Je vous regarde. Et je vois en chacun de vous la marque de l'action de Dieu dans votre vie, de la grâce qui vous a changé, de la vie qui a été transformée et qui est vraiment la gloire de Dieu. Je désire te voir. Alors, le message de ce matin, c'est « Nous avons été conçus pour accomplir une mission. Nous sommes tous missionnaires. » Pas besoin d'aller dans un pays étranger pour être missionnaire. Vous savez que le mot mission, bien, il est là. Merci de suivre. Bon, le mot mission, mais ça veut dire envoyer. Nous sommes tous envoyés par Dieu. Ça vient d'un mot latin qui veut dire envoyer. Alors, la mission de notre vie est à la fois commune, mais à la fois particulière, et nous le verrons tout à l'heure. Vraiment très particulière. Quand je vous vois, nous sommes tous différents. Tous. C'est la richesse de l'Église. Un environnement différent. Une éducation différente. Quelquefois, brinque-ballante, il y a des gens qui ont eu des souffrances dans leur éducation, qui ont été abusés. Et Dieu va se servir de toutes blessures pour toucher les gens qui nous entourent. Une enfance différente. Nous sommes dans des lieux différents, chacun d'entre nous. Nous sommes de conditions sociales différentes, de niveaux intellectuels différents, d'activités différentes. C'est la richesse du corps de Christ. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, une mission pour chacun d'entre nous. Et nous le verrons tout à l'heure. Être chrétien, c'est être envoyé dans le monde comme représentant de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans la deuxième diapo, vous lisez « Comme le Père m'a envoyé », premier verset, « Moi, je vous envoie ». La mission que Jésus a remplie sur la terre est maintenant la nôtre, car nous sommes le corps de Christ. Ce qu'il a fait dans son corps physique, eh bien, c'est à nous de le poursuivre dans le corps spirituel qu'est l'Église. Voyez ? Nous sommes son corps, et cette mission, nous devons l'accomplir. Alors, quelle a été la mission de Jésus ? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il a fait des miracles, il a manifesté de l'amour, mais essentiellement, pourquoi était-il venu ? Quelles ont été les premières paroles que Jean-Baptiste a dit concernant Jésus ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Il était venu pour être l'agneau. Nous l'avons chanté aussi. Hein. Et j'ai entendu ces paroles. Quand je vois tes mains percées, c'est le message aussi. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes pardonnés par Dieu. Et c'est ça qui nous donne la vie. Et j'aimerais d'entrer comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin de conditionnement. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas vraiment Jésus dans leur cœur, qui n'ont pas où. Parce que vous savez, on peut être croyant par la connaissance que nous avons de Dieu, mais ce que Dieu veut, c'est que nous connaissions Jésus en profondeur comme sauveur. C'est, voilà, il faut demander à Jésus, à un certain moment dans notre vie, de venir dans notre cœur et de dire, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu viennes dans ma vie et que tu prennes possession de moi. Jésus est appelé le sauveur. Un sauveur, c'est fait pour quoi ? Pour sauver. Et on ne peut sauver que ce qui est perdu. Alors, si tu n'as pas conscience d'être perdu, ta place n'est pas ici. Non, mais il faut être conscient d'être perdu pour pouvoir avoir besoin d'un sauveur. Si j'ai conscience, moi, je ne sais pas nager. Hein. J'ai une famille, tout le monde sait nager. Moi, j'arrive pas. Si, 20 mètres. Mais bon, si on me balance une bouée, je vous garantis que je vais m'accrocher. Hein. Par peur de me noyer. Bon, ben c'est pareil. Voilà, donc la bouée, Jésus nous la lance. Et on va l'attraper. Et il faut, à un certain moment dans sa vie, avoir demandé à Jésus, bien, Seigneur Jésus, tu viens dans ma vie. Tu viens dans mon cœur. Je veux que tu viennes en moi. Je te demande pardon pour toute ma vie, pour tout ce que j'ai pu faire de mal. Je te demande de me sauver. Et je demande que tu viennes dans ma vie et que tu fasses ta demeure dans ma vie. Alors, je vais faire une prière et que ceux qui se sentent touchés simplement, on va fermer les yeux. Et que celui ou celle qui veut recevoir Jésus dans son cœur, bien, lève la main simplement et dise, Seigneur, je désire que tu viennes dans ma vie et que tu me sauves, Seigneur. Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie. Je désire que tu sois mon sauveur. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce qui dans ma vie a pu être pas bien. Pour mon péché, Seigneur, et je te demande vraiment de venir en moi et de faire de moi une créature nouvelle. Merci, Seigneur, parce que tu viens en moi, tu me pardonnes et tu me sauves. Amen. Nous sommes donc tous des ambassadeurs envoyés par le Christ. Vous vous rendez compte, là, vous êtes tous ambassadeurs, ambassadrices. Pas bien, non ? Ça veut dire que dans votre maison, tous ceux qui franchissent le seuil de votre maison entrent dans une ambassade. Eh oui. Donc, il y a une atmosphère différente. Que vous le sachiez ou pas, que vous vous en rendiez compte ou pas, bien les gens qui franchissent le seuil de votre maison sentent que c'est différent. Nous sommes tous ambassadeurs. Nous représentons le Christ. Et ici, vous savez ce que c'est ? Ça, c'est pour la rigolade. Hein. Ici, c'est l'Élysée. Mais ce n'est pas lui le président. C'est Jésus. Bon, mais voilà. Et alors, quand nous amenons les gens à l'Église, ben, on les amène dans la maison de Dieu. On est là tous ensemble. Donc, hein, mais en même temps, chez nous, nous sommes les ambassadeurs. Je vais vous dire une phrase que j'ai trouvée vraiment belle. Ce n'est pas de moi. Je l'ai entendue il y a 2 jours par Carlos Payan. Notre vie actuelle est la nouvelle version de la Bible. Écoutez bien, pour ceux qui nous connaissent, ils n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu, certains. Rien. Et avant qu'on leur prêche la parole et que ça entre en eux, la seule référence qu'ils ont, voilà, notre vie actuelle est la nouvelle version de la Bible pour ceux qui nous connaissent et nous voient vivre. Vous vous rendez l'impact, c'est formidable. Nous sommes devenus pour eux un livre vivant, la main de Dieu tendue pour le monde et pour eux. Quelle responsabilité, mais en même temps, c'est extraordinaire. Il faut prendre conscience de ça. C'est formidable. Hein ? Et les choses sont incroyables. J'ai regardé la télévision donc, il y a 2 jours. C'est une émission donc, qu'il y a sur la 5, c'est à vous. Et alors, ils ont eu la visite du père Pedro. Vous connaissez le père Pedro ? Hein, c'est ce prêtre qui travaille à Madagascar dans les poubelles, hein, et qui a fait une œuvre extraordinaire, des écoles, des maisons et tout. Alors, il était sur le plateau, mais l'atmosphère, écoutez, incroyable l'impact qu'il a eu. Il parle de Dieu d'une manière naturelle, hein, c'était extraordinaire, et puis en même temps, de l'œuvre qu'il a accomplie. Mais alors, on ne reconnaissait pas les journalistes. Ils étaient lumineux des yeux. L'atmosphère, écoute, l'atmosphère était changée, quoi. Incroyable. L'impact qu'une personne qui a consacré sa vie à Dieu et aux pauvres peut engendrer dans la vie des gens qui. J'ai trouvé ça formidable, quoi. Donc, eh bien, c'est cet impact-là que Dieu veut que nous ayons dans notre vie à notre niveau. Je vous donne un exemple qui est particulier, qui permet de voir que les atmosphères peuvent changer. Il y a eu le ramadan, hein, il y a pas longtemps. Hein, bon, ça a duré 30 jours. Et on s'était engagé avec ma femme donc, à faire le contraire, nous. C'est-à-dire, pendant que s'arrêtaient de manger, nous, on jeûnait et on priait pour eux. Et comme on a des voisins qui sont musulmans, on a prié pour eux pendant 30 jours. Hein. Et puis, alors, ce qui est incroyable, ça fait 20 ans qu'on habite là. On ne leur a pas adressé la parole. On entend toc, toc, toc. Première famille en face, plein de pâtisseries. Vous savez, les bonnes pâtisseries. Hein, bon, pas bien pour le... voilà. Bon. Deux jours après, les voisins d'à côté, toc, toc. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a prié en disant, Seigneur, je veux que la porte s'ouvre et que le message puisse être annoncé quand la pandémie sera un peu, on sera plus, voilà, on les invitera chez nous et tout. Mais je veux dire, c'est incroyable de voir le changement que vous opérez dans une... Alors, ben écoute, on a bien mangé, hein, mais c'était bien. Mais en même temps, c'est quand même extraordinaire de voir l'impact que vous pouvez, et ça faisait 20 ans qu'on habitait avec eux. Qu'on leur disait bonjour tous les jours, on sent l'atmosphère changer, les gens changer, c'est bon, voilà. Donc nous sommes une ambassade de Dieu. Hein, et cette mission est tellement primordiale que Jésus l'a répétée 5 fois de 5 manières différentes dans la Bible. Vous avez vu ? D'abord, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Quand on lit la première partie, hein, ça fait lourd sur les épaules pour certaines personnes. Mais moi, je souligne toujours la fin parce que c'est le meilleur. Là, dans ces versets, le meilleur est pour la fin. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est extraordinaire. Donc, dans cette mission, Jésus est avec nous. Si on prend l'autre texte, dans la diapo 3, allez, encore une fois, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. La fin du verset, le meilleur pour la fin. Mais le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà ce que Jésus dit. Hein. Formidable. On continue. Dans Luc, que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés donc en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et alors, une chose intéressante, vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, il ne nous laisse pas sans rien, il nous donne la puissance. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons des témoins. Et on verra tout à l'heure, je vais vous faire rire aussi. Donc, bon. Nous devons être témoins. Plus loin, on peut lire aussi, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Au sujet de l'invitation des noces de l'agneau, c'est pareil. Allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Vous recevrez une puissance. Alors, il faut comprendre maintenant que notre mission est un merveilleux privilège. Paul nous appelle les collaborateurs et déclare dans 2 Corinthiens, puisque nous travaillons avec Dieu. Jésus nous a assuré notre salut, introduit dans la famille, et ensuite, il a fait de nous ses agents en ce monde. Nous devons nous souvenir que même, et ça c'est une chose que j'ai eue tout jeune, et c'est une certitude que j'ai quand je parle aux gens, nous devons nous souvenir que même si les gens paraissent satisfaits et épanouis, ce ne sont que des apparences. Et ça, vous ne me l'enlèverez pas. Seul Dieu procure la paix et la satisfaction intérieure. Et quel que soit le visage que la personne me montre, ce qu'elle me dit, je suis sûr de ça. Parce qu'elle a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme que Dieu seul peut combler ou qui a la forme de Dieu. Cette parole est vraie pour tous les hommes, même pour ceux qui paraissent ne pas en avoir besoin. Au XVIe siècle, un concours de poésie avait été organisé par Charles d'Orléans, frère du roi de France. Chacun devait composer un poème commençant par « Je meurs de soif auprès de la fontaine ». Je meurs de soif auprès de la fontaine. Tiens, hein, c'est peut-être une phrase emblématique du monde d'aujourd'hui. Il y a une fontaine, la fontaine de Dieu, qui est intarissable, les trésors de la grâce de Dieu que réserve à chacun l'opportunité offerte pour que nous puissions faire l'expérience bouleversante de son amour. Et cette source, elle est toujours méconnue. Et les gens crèvent de soif au bord de la fontaine. Cette mission a une portée éternelle. Dans notre vie, rien ne comptera jamais autant que d'aider les autres à établir une relation éternelle avec le Seigneur. Le Seigneur, comme je vous l'ai dit, veut que nous annoncions le Seigneur là où nous sommes. On en parlait tout à l'heure. Les étudiants qui sont en fac, ben peut-être qu'il y a des collègues étudiants, vous êtes la seule référence chrétienne qu'elle va rencontrer pendant toutes ses études. Nos voisins, pareil, on est peut-être les seuls chrétiens sur les 15 voisins qui sont autour de nous. On est la seule référence chrétienne, pareil. La mère de famille qui va chercher ses enfants à l'école, l'institutrice, le vendeur, le patron. C'est pas pareil quand on est dans une entreprise chrétienne, là, tout le monde est chrétien, mais hein, les patrons aussi, c'est pareil, hein, y a un témoignage à rendre. Hein. Sur cette terre, il y a des gens que nous seuls pouvons atteindre à cause de l'endroit où nous vivons, de la personnalité que Dieu nous a donnée. Si une seule personne se retrouve au ciel grâce à nous, notre vie aura fait une différence pour l'éternité. Alors, raconter le message de notre vie, c'est une proclamation. Hein. Même si nous croyons n'avoir pas grand-chose à dire, sachons que le diable essaie de nous réduire au silence, car nous avons fait une quantité d'expériences que Dieu va utiliser pour amener les âmes dans sa famille. Alors, c'est sûr que, hein, je pense aux enfants de chrétiens. Ils sont nés dans la soupe quand ils étaient petits. Alors, ils se disent, mais j'ai pas grand-chose à raconter. Plein de choses à raconter. J'ai eu la chance d'avoir eu des parents chrétiens. C'est une chance. J'ai eu la chance de trouver le Seigneur dans mes jeunes années. C'est une chance qui m'a permis de ne pas bousiller ma vie. Hein. Tous les témoignages sont beaux. Et je trouve ce témoignage plus beau que celui qui va passer un quart d'heure à raconter toutes les saloperies qu'il a fait dans sa vie. Quoi. C'est tout juste s'il ne va pas glorifier sa vie d'avant. Et puis il va dire une phrase en disant « Jésus m'a changé ». Hein ? Donc, voilà, c'est le plus beau, c'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Hein. Donc, Dieu veut nous utiliser et veut manifester sa grâce. Et il n'y a pas de grands et de petits témoignages. Le message de notre vie comprend, comme c'est écrit là, 4 aspects. Tourne, ouais. Quatre aspects, c'est la... C'est la diapo 8. Ouais. C'est pas grave. Bon, alors, diapo 8. Oui, bon. Alors, notre témoignage, l'histoire du point de départ de notre relation avec Jésus, les leçons de notre vie, nos passions spirituelles, les sujets spirituels que le Seigneur nous a particulièrement mis à cœur, et bien sûr, l'annonce de la bonne nouvelle. Le message de notre vie comprend notre témoignage. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le témoignage, eh bien, c'est raconter simplement, avec simplicité, notre expérience personnelle avec le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur n'a pas dit « Vous serez des évangélistes hein ?» Il a dit « Vous serez mes témoins, non mes avocats. » Raconter notre témoignage est une part essentielle de notre mission sur terre, parce qu'elle est unique. Nous avons tous un témoignage différent et qui va bénir un certain type de personnes. Même si nous sommes des experts de la Bible, nous connaissons notre histoire, à nous, mieux que personne. Parce que dans la rue, je vous garantis qu'on peut contester le message de la Bible. Et puis alors après, c'est combat de coq. Hein. Où est Chantal? Ouais, c'est combat de coq. Hein. Bon. Donc, c'est confrontation de point de vue, si la personne n'est pas ouverte à l'évangile. Par contre, si vous témoignez, la personne n'a aucune prise sur vous. Vous racontez votre expérience, votre vécu. Elle ne peut que être touchée. Donc, rappelons-nous, nous sommes des témoins. Les non-chrétiens considèrent les pasteurs et les évangélistes comme des vendeurs professionnels. Hein ? Par contre, nous, nous sommes des clients satisfaits. Et là, je vous garantis que ça fait la différence. Nous sommes clients satisfaits. Quand nous parlons de Jésus, nous racontons notre propre expérience, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons encore aujourd'hui. Nous sommes des clients satisfaits, donc ça touche. Notre mission essentielle est d'amener les gens à Jésus. Dans le Nouveau Testament, certains disciples ont une place spéciale. Vous savez, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que Pierre, Jean et Jacques, c'était des disciples qui avaient une place spéciale. À chaque fois, Jésus les emmenait avec lui. Ils ont été là pour la transfiguration, pour plein de situations. Puis il y a des disciples dont on entend parler très peu. Et il y en a un que j'aime bien. C'est André. André. L'évangile, on le voit dans l'évangile de Jean. C'est là où il en parle le mieux. Alors, on va le lire, vous allez voir, c'est très beau. Et on peut être tous des André. Alors, Jean 2. Jean 1. Alors. Donc, il y a eu le baptême de Jésus dans Jean 1. Hein, et la parole donc, qui a été dite tout à l'heure, « Voilà l'agneau de Dieu ». Et il y a deux des disciples qui entendent prononcer ces paroles et suivent Jésus. Jésus se retourne et il leur dit « Qui cherchez-vous, Rabbi ?» Où demeures-tu ? Venez, vous verrez. Donc, ils y arrivent. C'était la 10e heure. Et alors, on lit au verset 40, André, frère de Simon, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc, André a amené son frère Simon. Et vous rappelez les paroles que Jésus a dit, hein ? Et l'impact que Pierre va avoir. Formidable. Est-ce que vous connaissez Albert Mackin ? Bon, ceux qui font Alpha, ils le savent, mais qui ne connaît pas Albert Mackin ? Levez la main. Oh, bien ! Je vais pouvoir raconter son histoire. Albert Mackin était un paysan américain hein, au State, là. Et belle, avec un bon camion et tout. Et alors, il était chrétien. Et il y avait une espèce de réunions sous tente avec un évangéliste et tout, qui prêchait l'évangile et tout. Et il essayait d'amener ses copains. Il avait d'ailleurs réussi à les amener tous, sauf un. Il n'arrivait pas à l'amener. C'était un tombeur de filles. Il faut dire qu'il était beau. Hein. Alors, ça défilait. Hein. Et puis, il n'arrivait pas à l'inviter. Alors, il s'est dit un jour, il lui a lancé un petit piège d'amour en disant, si je te laisse conduire mon camion, tu viendrais à la réunion. Ah, le mec, ah oui, si tu me laisses conduire le camion. Hop, il prend le camion, il arrive à la réunion, il est saisi par les paroles qu'il entend. Il donne son cœur à Dieu. Depuis, cet homme a parlé à plus de 5 présidents des États-Unis, a fait des conférences en recevant dans des stades des milliers de personnes, et il a même parlé à plus de 1 milliard de personnes. Et moi, je me rappelle, on y était, hein, tu te rappelles ? On avait monté une tente au jardin de la Fontaine, et là, on s'était inscrit avec le satellite, là, et puis on avait fait des conférences qu'il y avait partout dans le monde et tout. Et puis, voilà. Albert McKean, il a peut-être amené une âme au Seigneur, mais c'était Billy Graham, vous vous rendez compte ? Quel formidable, hein ? Voilà. C'était un André. Alors, on ne peut pas être tous, hein, on peut pas être tous des Billy Graham, hein, mais on peut être tous des McKean, non ? Alors, diapositive 11. Je vais vous donner un petit exercice pour la semaine, pour vous, hein, pour vous personnellement. Je pense que ça serait intéressant pour vous. D'essayer d'écrire son témoignage. Bah, d'ailleurs, c'est un truc qu'on pourrait faire quand même. On ne connaît même pas l'histoire de tout le monde, là. De temps en temps, si on pouvait avoir des témoignages, comment les gens ont trouvé le Seigneur, on ferait connaissance davantage et ça serait extraordinaire. Hein. Mais voilà. Alors, d'abord, quand je conçois. Voilà. Pour écrire mon témoignage, je mets comment était ma vie avant que je rencontre Jésus. 2, comment j'ai compris que j'avais besoin de lui. Comment je lui ai consacré ma vie et après, quelle différence il a fait dans mon existence. Ça, c'est votre témoignage. Vous arrivez à faire ça en 3 ou 4 minutes, ça suffit et tout est dit. Maintenant, c'est le message, bien sûr, c'est le témoignage du comment j'ai rencontré Jésus. Mais en même temps, le message de notre vie comprend toutes les leçons que Dieu nous a enseignées. Et c'est là qu'on rejoint les personnes. Parce que dans les expériences que nous avons vécues, à travers mes échecs, quand j'ai manqué d'argent, comment j'ai réagi ? Quelles sont les expériences que j'ai faites avec Dieu dans les domaines de l'argent ? Ça touche les gens, hein ? Pognon. Ça touche. Quand on raconte des trucs invraisemblables que Dieu a fait quand on était dans le besoin, les gens, des yeux, mais c'est ça quoi. Quand j'ai connu la douleur, le chagrin, la dépression, le deuil, nous rencontrons des gens qui vivent ces mêmes expériences, mais sans Dieu. Donc vous vous rendez compte les situations dans lesquelles ils se trouvent. Et quand ils voient des gens qui ont vécu la même situation, mais qui l'ont vécu d'une manière totalement différente parce que Dieu a fait la différence, là ça touche. Parce que ça touche quoi ? Ça touche nos vies et ça touche leur vie. À travers la maladie, hein. Même si Dieu guérit, on est quand même malade quelquefois, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, à travers les déceptions, que m'ont appris ma famille, mon église, mes relations, les critiques qui m'ont été adressées, tout ça, ça fait partie du témoignage et qui peut toucher les gens vers lesquels nous allons et qui sont nos contemporains. Et bien sûr, le message de notre vie comprend l'évangile. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ. La plus importante encore, je dois apprendre à aimer les gens qui sont perdus de l'amour du Seigneur. il y a deux prières que vous pouvez faire qui seront exaucées à coup sûr. La première, c'est si vous n'avez jamais réalisé, parce que c'est vrai que souvent notre message chrétien est dénaturé de tout le monde, il est beau, il est gentil, le Seigneur, il aime tout le monde. C'est vrai, il aime les pécheurs, mais il a de la haine pour le péché. Alors la prière, si vous dites à Dieu, Seigneur, montre-moi mon péché, je vous garantis qu'il va le faire. Si ça ne s'est jamais passé, faites-le. Hein. Ça va vous changer complètement. Si vous n'avez jamais pleuré sur votre propre vie et sur la noirceur de votre existence et de votre péché, c'est que vous n'avez pas encore reçu la véritable conviction péché. Même pour les enfants de chrétiens. Hein. Parce que pour les gens, c'est sûr, la conviction de péché pour le mec qui s'est drogué, qui a fait plein... Ben là, il n'y a pas de problème, hein, il va être convaincu. Mais même pour nous, moi je suis je me suis converti jeune, j'avais 16 ans. Ben, ça ne m'a pas empêché de voir la noirceur de mon cœur hein, et de pleurer sur mon péché. Donc ça, c'est une prière, Dieu répond. Et la deuxième à laquelle Dieu répond, Seigneur, donne-moi de l'amour pour les gens qui sont perdus. Priez. Une journée, deux journées, trois journées, ça ne veut pas dire toute la journée, mais que ça se ressasse dans votre cœur en disant, Seigneur, donne-moi, je veux des... Et puis, vous allez voir. Au moment où vous n'y attendez pas, vous allez recevoir quelque chose de fort de Dieu qui va vous faire comprendre et vous allez être changé. C'est deux prières que le Seigneur exauce. Ça, c'est sûr. Donc, voyez, mon péché, l'amour des autres et des gens qui sont perdus sans espérance. Jamais l'Éternel n'a créé une seule personne sans l'aimer. À ses yeux, tout le monde compte. Nous devons nous intéresser à tout le monde, même au SDF, hein, mon ami. Alors, eux, ils ont conscience de leur péché. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine de... Hein? Voilà. Car Dieu lui-même transforme notre vie. Si vous avez un immeuble en flammes, les parents se précipiteront dans cet immeuble pour sauver un enfant, parce que leur amour dépasse la peur qu'ils ont du danger. Ben, c'est ça l'amour des chrétiens, l'amour des pécheurs. Quand on a conscience des gens qui sont dans la maison qui brûlent, là, on bouge. Si nous craignons d'annoncer l'évangile à ceux qui nous entourent, demandons au Seigneur de remplir notre cœur, comme je vous l'ai dit, de l'amour pour eux. Tant que nous connaîtrons quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu, nous devons continuer à prier pour lui, à le servir avec amour et à lui annoncer l'évangile par tous les moyens possibles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour inviter nos proches pour qu'ils aillent au ciel ? Les inviter à l'église. Vous avez la chance d'avoir une église dynamique. D'ailleurs, quand je vous vois, d'avoir une église dynamique où on vit l'amour et tout. Je veux dire, bon, il y a des endroits où les gens, ils hésitent de les amener à l'église parce que, bon, c'est un peu tristouné, quoi. Alors, bon... Hein? Mais quand l'amour est manifesté, quand la vie est manifestée, donc on n'a pas peur d'inviter les gens à l'église, donc invitez-les. Tous les moyens sont bons. Hein? Ah, j'ai lu un truc incroyable. Il y avait des couples fans de football. 5 familles. Donc ils allaient dans tous les matchs. Ben, ils invitaient leurs copains, leurs collègues, à voir les matchs. Et après, tiens, on se fait un barbecue. Le contact a été établi, on a les mêmes points communs. On se fait un barbecue et après, on parle. Ben, ces 6 familles ont amené 23 familles à l'église et au Seigneur par une activité, le foot. Donc tout est... Le foot, c'est formidable. Alors, on peut les inviter à l'église. Comme je l'ai dit tout à l'heure, raconter notre histoire, offrir un livre, les inviter à manger... Priez pour eux jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Je l'ai déjà dit, mais ce qui a changé l'environnement dans notre quartier, malheureusement avec la période qu'on a, on ne peut pas le faire, mais c'est la fête des voisins. On ne l'avait jamais faite. J'avais essayé de la faire une fois, il pleuvait comme une vache, comme une vache qui pisse. Dans le nord, on dit qu'il pleut comme une vache qui pisse. Alors on n'a pas pu le faire, puis une année, ça s'est produit. Eh bien, en invitant les voisins, n'est-ce pas, Rosie? L'atmosphère a changé. Je veux dire, les gens se sont ouverts. Il y a des gens qu'on avait invités à l'église qui avaient dit non, 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 non. Et puis, et voilà, le fait d'avoir créé une atmosphère d'amour, d'accueil et tout, ben, ça a changé donc, l'atmosphère. Et puis, voilà, le message de l'évangile a pu avancer, progresser. Donc, vous voyez, voilà. Mais la plus grande, bien sûr, de ces choses, c'est la prière. Prier, prier, prier pour nos voisins. Et pour nos amis, pour nos collègues de travail, pour toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Alors, je vous pose une question. Sommes-nous un chrétien cosmopolite ou mondain ? Je dis nous, hein, parce que je m'englobe dans ce que je dis. Hein. C'est pas, ça s'adresse aussi à moi. Hein. Le chrétien mondain cherche avant tout que le Seigneur le rende heureux. C'est normal, hein ? Que le Seigneur nous rende heureux. Mais bon, il est un peu égocentrique. Ses prières sont centrées sur ses besoins personnels. C'est la foi du moins d'abord. À l'opposé, le chrétien cosmopolite, c'est qu'il est sauvé pour servir. Encore une devise de l'armée de salut. On ne peut pas se refaire. Hein. Tu veux, il y a des trucs qui sont ancrés en nous. Hein. Sauvé pour servir. Donc, on est sauvé pour servir. Créé pour accomplir une mission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est enthousiaste à l'idée d'être employé par le Seigneur. Alors, moi je dis à Dieu, je veux être un chrétien cosmopolite. Jésus nous dit d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je pense que les disciples auraient pu se sentir dépassés. Hein. Ils pouvaient se déplacer qu'à pied, à dos d'âne, chameau, en prenant des embarcations qui étaient un peu précaires, hein, quand on voit que Paul il a fait naufrage combien ? Deux ou trois fois, je ne sais plus combien. Hein, plusieurs fois en tout cas. D'accord ? Et l'évangile s'est répandu à une vitesse extraordinaire, toi. Alors nous, maintenant, on a des avions, on a des bateaux, on a des trains, des bus, des voitures. Formidable, hein ? Grâce à Internet, et là, on le voit avec la pandémie, hein, tout ce qu'on a pu faire avec Internet, c'est extraordinaire. Hein, on a Internet, le monde entier semble tout petit. Nous pouvons communiquer avec le monde entier en un clic. Nous pouvons propager l'évangile à des personnes à l'autre bout du monde. C'est extraordinaire. Donc on est dans une période où l'évangile peut se répandre à une vitesse formidable. Alors comment acquérir cette mentalité d'un chrétien cosmopolite ? Eh bien voilà, adoptons la mentalité de Jésus, une mentalité qui se tourne vers les autres. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à penser aux besoins spirituels des non-croyants chaque fois que nous les rencontrons. Et élargissons notre champ d'action. J'ai fini et j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on puisse demander au Seigneur de nous utiliser par notre témoignage. Seigneur, nous rendons compte, et ça a été dit d'ailleurs dans la lecture du psaume, on est plutôt vers la fin que vers le début, hein, pour l'histoire du monde et de l'humanité. Seigneur, nous te demandons de nous bénir, Seigneur, et nous nous remettons à toi pour que tu nous donnes la capacité, la possibilité de donner notre témoignage. Témoignage de ce que tu as fait dans nos vies, aux gens qui nous entourent, à nos voisins, aux SDF qui vont venir se laver, hein, et moi, les SDF à qui je donne du pain, aux gens qu'on rencontre dans la rue avec Chantal, à nos voisins, à notre famille, à nos enfants, à notre mari, à notre femme, pas convertie, à nos commerçants, à nos collègues de travail, à toutes les personnes que nous côtoyons. Donne-nous de saisir les occasions et donne-nous d'avoir des occasions, Seigneur, de pouvoir témoigner, rendre compte de ce que tu as fait dans notre vie et de la transformation que ça a opéré en nous. Merci de nous utiliser, Seigneur, nous nous mettons entre tes mains et tu veux bénir notre vie, nous voulons porter du fruit et nous voulons permettre que des personnes nouvelles te rencontrent et leur vie complètement changée, transformée par toi. Amen.